Laurent Godet.
Vous parliez des camps de réfugiés syriens ou de petits peuples de Port-au-Prince. Voir des gens debout, ça m'a toujours d'abord profondément bouleversé et donné systématiquement envie d'écrire. C'est-à-dire face au malheur qui s'invite dans nos vies, les gens qui ont cette force intérieure qui les rend capables de rester debout et de dire encore leur défaite. En permanence, c'est la tragédie grecque, elle est là.
Ça peut pas faire de mal.
La tragédie grecque, c'est pas uniquement un bombardement de malheur, c'est des gens qui, face au malheur, se tiennent debout et le temps d'un chant qui va durer une demi-heure, une heure, disent leur défaite. Ça, c'est magnifique, c'est à pleurer. Et donc, l'envie est d'essayer de faire entendre cette voix endeuillée-là, qui est celle de l'humanité, mais qui crée de l'émotion aussi.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Qu'est-ce que cela signifie sentir physiquement le monde ? Le parcourir, certes, mais pas seulement. Se laisser traverser aussi par lui. Être modifié, heurté. On est loin du tourisme. Sentir le monde, c'est accepter le risque qu'il vous bouscule. C'est même le vouloir profondément. N'y a-t-il pas là une vérité propre à la nature du geste artistique ? Voyager, c'est donc aller au point de déséquilibre pour les ressentir, les comprendre, ou juste plus modestement les contempler. Cette chose-là me touche personnellement beaucoup. Pour moi, c'est comme de dire, qu'importe les années passées, le travail accumulé, le plus important est de ne pas se laisser en paix, de ne jamais oublier que nous sommes du côté du luxe et qu'il est important, moralement, de s'éreinter. N'est-ce pas là une définition possible de l'homme ? L'animal est dans la survie et la recherche du confort, se nourrir, avoir chaud, se protéger des prédateurs, se reproduire. L'homme seul cherche l'épreuve. Et l'artiste plus que les autres. En ce sens-là, il n'est peut-être pas absurde de dire que le voyage sauve. Le voyage est un étrange endroit où se joue pour l'artiste à la fois un effacement de soi et une recharge de ses réserves de colère. Nous avons besoin de cela, nous assurer que notre geste artistique, qu'il soit celui d'un metteur en scène ou d'un écrivain, n'est pas celui d'un divertissement pour société repue. Que nous ne sommes pas prisonniers d'un enclos culturel. Le voyage confère le courage de l'effacement, ce qui est peut-être le point le plus difficile pour un artiste, accepter l'idée de s'évanouir dans ce que l'on provoque. C'est peut-être là que voyage et théâtre se rejoignent. Dans les deux cas, il s'agit de s'effacer pour voir les choses se produire. Il s'agit de chercher à faire apparaître plus que de dire. Montrer la fièvre, voilà le point qui me touche le plus. Car dans la fièvre, l'homme est à la fois fragile et vibrant. Et le théâtre, à la fois caisse de résonance des bruits du monde et requiem pour l'âme des damnés. Cet éloge du voyage est dédié à un artiste qui a arpenté les continents, l'homme de théâtre Jean-Louis Martinelli. Ces mots sont nés sous la plume de l'écrivain Laurent Godet qui signe la préface des carnets de voyage du grand metteur en scène publié en 2012 chez Actes Sud sous le titre « Aller-retour ». Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de vous recevoir à nouveau Laurent Godet pour une seconde émission consacrée à votre œuvre. Du spectacle du monde au monde du spectacle, votre écriture se nourrit d'autant d'allers-retours d'un continent à l'autre, du roman au théâtre, de l'écrit à l'oral, de l'Antiquité à la modernité. Après les héros du monde hellénistique que nous avons évoqués la semaine dernière, nous allons parcourir ensemble quelques-unes des grandes tragédies contemporaines qui ont marqué notre époque et qui vous ont particulièrement touché, vous, l'écrivain voyageur devenu passeur d'âme. Commençons par un texte inédit où vous rendez hommage aux populations les plus démunies. Il s'agit d'un poème que vous ont inspiré vos voyages en Haïti, au Kurdistan irakien ou plus récemment dans la jungle de Calais. Il s'intitule Korchak. À vous l'honneur.
Les mots sont vieux, comme la souffrance des peuples.
Il y a des vies entières, passées, sans jamais connaître répit ni lumière. Harassement de naissance. Il faut aller chercher de l'eau, creuser la terre qui ne donnera rien, n'en peut plus de sécheresse et voudrait mourir elle aussi ou boire à l'infini. Il faut vivre, cela s'appelle ainsi. Bataille de crasse contre l'oubli, il faut tirer sa peine de vie, chaque jour recommencer. Il n'y a pas de regard sur eux, il n'y a que des jours et des nuits qui se succèdent jusqu'à ce que les jeunes gens deviennent vieillards. Et les mots ne savent pas dire cela. La vieillesse de 20 ans, les corps jeunes mais à bout de vie. Les mots ne savent pas ou ont renoncé. La colère, faites qu'elle ne nous quitte pas. Face à l'engloutissement des peuples, ces vies, centaines de milliers de vies qui n'ont rien, ne vivront rien et disparaîtront sans que le monde ait seulement remarqué qu'elles étaient nées. Faites place à la colère, que les mots puissent la dire. De prière, il n'y en aura pas, pas de celle que vous connaissez. Il n'y aura de prière que celle que j'invente. Je la prends du fond des âges, je l'embrasse, lui murmure ce que j'ai vu. Il n'y aura de prière que celle que je nomme Korchak. Je la veux rauque, je la veux épaisse comme les voies de peur et ample comme les montagnes du début des temps. Korchak, prière des peuples pour les vies trop vite avalées. Le temps de naître, d'avoir faim, de chercher à vivre, et puis plus rien. Korchak, comme les monts mésopotamiens, où les aigles sourient de n'être pas des hommes, comme le silence des villages brûlés après les pogroms. Korchak, pour les enfants noyés, les grandes léproseries et les bidonvilles de prostituées. Korchak, prière à aucun dieu, aux hommes seuls, que les engloutis ne soient pas oubliés. Leur vie ne sera pas sauvée, mais qu'elle reste dans nos mémoires. Korchak, pour vous, hommes, femmes, troupeaux humains, blottis, écrasés, nous vous porterons encore, même si cela nous casse le dos. Petites gens qui auraient pu devenir destin, familles entières qui n'ont connu que l'appétit sans fin et le harcèlement des jours. L'humanité devient de plus en plus lourde au fil des siècles. Korchak, du nom des monts sauvages où vous pensiez trouver refuge et où vous êtes mort, asséché par le vent, la faim, la fatigue. Nous savons depuis des siècles que nous vivons sur des peuples engloutis. Je dis le chant sans Dieu, je le glisse en terre. Je dis juste cela, le poème de l'absence, le don des larmes. Je dis, vous avez été, même trop vite, même pas assez, vous avez été. Korchak, le dernier don à celui qui n'a rien, le poème, pour que toutes les vies soient comptées.
Sensible à la détresse des hommes, vous vous faites le témoin des grands drames actuels. Partons pour la Louisiane, et plus précisément pour la ville de la Nouvelle-Orléans, dévastée par le passage du cyclone Katrina il y a plus de 10 ans. Nous sommes le 23 août 2005 à 11h du matin, et l'un des 6 ouragans les plus meurtriers de l'histoire se prépare.
Eux n'ont pas attendu l'ordre général d'évacuation, ils se sont enfuis dès l'aube. Des dizaines de milliers d'habitants ont pris la route pour échapper au terrible ouragan Katrina. Cette fuite a provoqué des embouteillages monstres et ce n'est pas fini, car toute la population de la Nouvelle-Orléans doit maintenant quitter la ville. 1,5 million de personnes est concernée.
Découvrons un extrait de ce récit d'Apocalypse, Laurent Godet, que vous publiez en 2010 sous le titre « Ouragan ». Parmi la population, les Noirs sont les derniers à être évacués. Et parmi eux, la vieille Joséphine défie les éléments. Moi, Joséphine Lingstilson, négresse depuis près de 100 ans. J'ai beau être aussi usée que les vieux saules des bayous qui laissent pendre leurs branches dans les eaux sales avec résignation, je pense encore avec ma bouche, comme on disait quand j'étais gamine. Tu embobineras les alligators de chef menteur, disait ma tante en riant. Et c'est vrai, je l'ai fait certaines nuits, puisque je voulais éprouver ma force, celle de ma voix, Je suis allé dans le quartier de Chef Menteur, au bout du plus lointain des pontons. J'ai mis les pieds dans l'eau et je me suis mis à parler. Je parlais, moi, petite Joséphine, déjà négresse, au milieu des jacinthes fanées. Je parlais et toujours les grenouilles finissaient par répondre. Plus tard dans ma vie, chaque fois que ma carcasse de négresse s'est trouvée face à une difficulté et qu'il a fallu que je me batte, j'ai pensé aux grenouilles des bayous et à la petite cinglée de négrillonne qui laissait ses pieds dans l'eau pour charmer les alligators. Personne ne me dit ce que je dois faire. Personne. Et tant pis si ma tête de bourrique de négresse me fait courir à ma perte. Je suis Joséphine Ling-Stilson et je vis comme je veux. On ne m'emmènera pas dans un hangar pour m'entasser avec d'autres vieux recouverts de couvertures. Que les autres s'en aillent, qu'ils s'entassent dans des camions qui rouleront au pas sur les autoroutes saturées du pays, qu'ils prient en sanglotant s'ils veulent, mais qu'ils me laissent en paix. Je suis Joséphine Ling-Stilson et, s'il le faut, je parlerai à l'ouragan et il fera comme les grenouilles du bayou. Il m'écoutera et il se mettra à chanter parce que personne ne me résiste. C'est ainsi que je suis faite. Et s'il ne m'écoute pas, si celui-là est plus dur que tous les autres, alors que ce soit la fin, qu'il m'engloutisse, cela fait longtemps que j'attends. Moi, Joséphine Ling-Stilson, négresse pour quelque temps encore, me voici revenue chez moi et personne ne m'en délogera. La rue est vide. Qui se soucie d'une vieille folle comme moi? Ils m'ont oublié. Ce pays est tout entier fait comme ça. Rien ne s'oublie mieux que les négrillons. Il en a toujours été ainsi. Toute la ville a foutu le camp. Et ils ont laissé derrière eux les nègres qui n'ont que leurs jambes pour courir. Parce que ceux-là, personne n'en veut. Nous allons rester là et advienne que pourra. Je n'ai pas peur. Je la sens qui vient. C'est bien. Les hommes d'étale, ils ont tort. Ils devraient rester pour voir que leurs maisons ne sont rien, que leurs villes sont fragiles, que leurs voitures se retournent sous le vent. Ils devraient rester car tout ce qu'ils ont construit va être balayé. Il n'y aura plus d'argent, plus de commerce, plus d'activité. Nous ne sommes pas à l'échelle de ce qui va venir. Le vent va souffler et ils se moquent de nous, ne nous sent même pas. Les fleuves déborderont et les arbres craqueront. Une colère qui nous dépasse va venir. C'est bien. Les hommes qui restent et verront cela seront meilleurs que les autres. Nous allons tout perdre. Nous allons nous accrocher à nos pauvres vies comme des insectes à la branche, mais nous serons dans la vérité nue du monde. Le vent ne nous appartient pas, ni les bayous, ni la force du Mississippi. Tout cela nous tolère le plus souvent. Mais parfois, comme aujourd'hui, il faut faire face à la colère du monde qui éructe. La nature n'en peut plus de notre présence, de sentir qu'on la perce, la fouille et la salit sans cesse. Elle se tord et se contracte avec rage. Moi, Joséphine Ling-Stilson, pauvre négresse au milieu de la tempête, je sais que la nature va parler. Je vais être minuscule, mais j'ai hâte. Car il y a de la noblesse à savoir qu'un coup de vent peut balayer nos vies et ne rien laisser derrière nous, pas même le vague souvenir d'une petite existence. Poursuivons notre lecture et rendons hommage aux victimes d'une autre catastrophe naturelle au large des côtes américaines. Voici un extrait de « Danser les ombres » paru en 2015 qui nous plonge au cœur de la tragédie d'Haïti lors du séisme de 2010.
À chaque coin de rue, un spectacle de désolation. Des milliers d'habitants errent déboussolés dans le centre-ville dévasté. Après la très violente secousse, les Haïtiens sont sortis dans les rues pour se protéger des effondrements. Il était 17h lorsque le sol a tremblé à Port-au-Prince. Juste à côté, sur les trottoirs, les blessés se mêlent aux cadavres qui se comptent déjà par centaines.
Après le tremblement de terre, votre récit évoque la lutte acharnée des hommes pour sauver quelques vies sous les décombres des maisons. Mais le soir, à la tombée de la nuit, un mystérieux rituel s'organise dans les rues de Port-au-Prince et je vous cède la parole, Laurent Godet.
D'abord, ce n'est qu'un cortège d'hommes et de femmes marchant droit dans la nuit. Puis, au carrefour des rues Macouli et Dame Marie, le vieux Tess impose une étrange danse à la colonne qui le suit. Il s'engouffre dans la rue Dame Marie, puis s'arrête, revient en arrière, fait plusieurs pas chassés sur le côté et repart en courant vers la rue Macouli. Derrière lui, c'est la confusion. Ceux qui suivaient ne comprennent pas ce qu'il fait. Les corps se bousculent. Certains tombent, d'autres hésitent, se relèvent. Saoul et Lucine sont serrés l'un contre l'autre. Au carrefour de Macouli et Dame Marie, le vieux Tess commence à semer les morts. Et la première à s'égarer est la petite Lily, tache blanche qui disparaît derrière eux. Elle était morte depuis longtemps, Lily, la petite handicapée. Elle était morte là, son corps épuisé d'avoir tenu si longtemps, et le vieux Tess savait bien qu'elle serait la première. « Il faut danser les morts », murmure-t-il. Il fait maintenant des pas de côté, allant à reculons, accélérant d'un coup. Les morts doivent être semés sur le chemin et ne plus jamais savoir comment revenir dans le monde des vivants. Alors, le cortège entame une danse saccadée, faite de remords, d'hésitation, de course. La grâce regarde Tissourire à ses côtés, qui peine de plus en plus et trébuche. Son ami ne tiendra plus longtemps. La grâce repense à ses instants sous les décombres, lorsque Tissourire l'encourageait à tenir, la poussait vers la lumière. C'était une morte qui l'aidait. Alors elle serre la main de Tissourire pour lui dire merci. C'est grâce à sa force à elle, à sa ténacité qu'elle a tenu. C'est grâce à sa voix dans la nuit des éboulis qu'elle a pu atteindre la main du sauveteur. Mais la jeune femme n'y arrive plus. Adieu, Tissourire. Il faut partir. Leurs mains se séparent. Le mouvement de la foule est le plus fort. Adieu, la grâce. Un dernier regard volé à la nuit avant de retourner au néant. Partout, maintenant, dans le cortège, des silhouettes tombent ou disparaissent. Adieu, les morts. Vous ne nous suivrez pas. Et tous maintenant se regardent avec crainte, redoutant de découvrir que celui qu'ils aiment, celui qu'ils tiennent par la main, ne disparaisse à son tour. Le vieux Tess ne cède pas, il ne s'arrête jamais. Adieu les morts. Et la petite Lily, perdue dans la nuit, embrasse une dernière fois du regard cette colonne d'hommes et de femmes qui s'éloignent dans un bruit mat de pas frappés sur le sol. D'abord, ce n'est qu'un cortège d'hommes et de femmes vaillants, entrant dans la nuit d'un pas sûr, mais maintenant la colonne semble se déliter, s'éparpiller, se briser. Des ombres restent sur le bas-côté, tête basse, désespérées d'être chassées du monde. À chaque carrefour, ils s'en perdent. Les morts ne savent plus où ils sont. Ils sentent qu'ils vont devoir rejoindre le pays des ombres et ils pleurent sur leur vie, sur les amis qu'ils quittent. Maintenant, la colonne avance d'un pas saccadé, et tout le monde tremble. Les vivants ne savent plus s'ils sont vraiment vivants. Ils craignent de se découvrir morts.
Dany Laferrière.
Les morts ne sont pas morts. Ils sont là, ils nous accompagnent tout le temps. Donc on est environné de morts. Et dès qu'on se lève en Haïti le matin, quand on prend son café, il faut en donner aux morts, et 3 gouttes de café. Et une tradition qui se perd un peu, mais dans mon enfance, c'était très fort. Et on appelle les morts. Ma grand-mère parlait toujours avec mon grand-père qui était mort, mais de façon en lui disant de ne pas croire que parce qu'il est mort, il va se reposer comme ça, et pendant que la maison a des difficultés, qu'il doit faire un effort, se lever, quoi. Et c'est une vision un peu, disons, sphérique de la vie, où la vie, la mort, la vie. Et il n'y a rien de mystique là-dedans. Il n'y a rien qui fait peur aux enfants. Il n'y a rien de fantôme. Tu rai
Poata atunci mult se tură când o suna scândura, când o suna scândura lume soare lume când mor băga in mormânt și noi mai fi pe pământ lume soare lume.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Remontons le cours du temps et abordons un nouveau continent où sévit un autre fléau, la guerre. Nous sommes en Algérie, en pleine guerre d'indépendance. Raïssa, une jeune fille orpheline chassée par les siens, connaît les collines comme personne et sert de messager pour les rebelles. Traquée par les militaires français, elle est bientôt arrêtée et victime de leurs tortures. Voici un extrait de cette pièce de théâtre bouleversante, « Les Sacrifiés », présentée pour la première fois en 2004 au Théâtre des Amandiers de Nanterre, dans une mise en scène de Jean-Louis Martinelli. Le cœur des soldats.
Tes nuits seront longues, Raïssa. Désormais, toutes les nuits seront longues. Vous aviez le choix. Toi et les va-nu-pieds qui t'entourent, rebelles, bougnoules, vous aviez le choix. Nous vous avons offert notre amitié, et vous avez craché dans la paume de notre main. Alors oui, maintenant, vos nuits seront longues. C'est le combat, Raïssa. Regarde bien nos visages. Regarde comme ils ont changé. Tu voyais hier des visages de jeunes gens, souriant au soleil, tendant aux enfants des gourdes d'eau. Tu voyais des garçons qui flottaient dans leurs uniformes et avaient la joyeuse lumière de leurs 20 ans. Aujourd'hui, tu croises nos regards et tu sursautes. Tu ne nous reconnais pas. Nous avons les mâchoires serrées et le regard dur. Nous avons les mains lourdes et impatientes de frapper. Nous sommes prêts pour le combat. Tu vas nous sentir, Raïssa. Désormais, nous sommes durs comme la pierre. Désormais, nous ne craignons plus de nous tâcher. Désormais, nous giflons les vieilles et renversons les étals au marché. Désormais, nous allons jusqu'au bout. Regarde bien notre visage, Raïssa. Il te fait peur. Tu voudrais reculer ? Regarde bien. C'est celui de l'histoire. Le visage calme et sans pitié de l'histoire qui va te broyer. Tu ne dormiras plus, Raïssa. Il ne fallait pas. Tes nuits seront longues désormais. Longues. Et il ne servira à rien de supplier.
Deux scènes plus loin, Raïssa évoque son terrible sort. J'ai entendu leurs chants. La première nuit, je les ai entendus. Au loin, oui. Je me suis accroché. La vie continuait là-bas. Je me suis concentré sur cela, pour ne pas avoir peur. Je me suis souvenu de ce que le soldat m'avait dit. Répondre aux questions. J'étais prête. Je voulais tout dire. J'étais prête, mais ils ne m'ont posé aucune question. Ils sont entrés dans ma cellule. Ils étaient 5. Ils m'ont déshabillé. Ils m'ont giflé. J'étais une poupée nue. J'avais honte de mon corps. Ils m'ont violée toute la nuit. La musique, au loin, parfois, je l'entendais encore. Mais ça n'a pas suffi. Ils m'ont gardée 5 semaines, sans jamais poser une seule question à laquelle je puisse répondre. 5 semaines. Et chaque nuit, ils revenaient. À 5, à 8, à 10. La musique, je ne l'ai entendue que la première nuit. Plus jamais après. Il n'y avait plus rien d'autre que les corps lourds des hommes qui riaient sur moi. Les collines n'existaient plus, j'étais seul. Les coups sur ma peau, les crachats, les mains qui me tenaient, écartelées. 5 semaines, sans jamais me poser une seule question. « découvrons un autre visage de ces femmes sacrifiées. Construite sous la forme d'un triptyque, votre pièce Laurent Godet donne la parole à trois générations de femmes. Saïda, la petite fille de Raïssa, a émigré en France. Devenue une belle jeune fille, la métisse blanche plaît aux hommes et aime séduire. Mais dans la cité, le fanatisme religieux monte. Voici un extrait du troisième acte. Après l'héritage de la guerre et de l'exil, Saïda fait face à une nouvelle forme de menace et d'humiliation de la part des grands frères. Dans la scène suivante, la jeune fille défigurée au vitriol s'est réfugiée chez une amie. Vous lirez Selim et moi Saïda.
Saïda, Saïda, je suis venu te chercher.
Me chercher ?
Il faut rentrer, la maison t'attend. Tout le monde te réclame.
Je ne rentrerai pas.
Que dis-tu ?
Je reste ici, chez Leila.
Saïda, cela a assez duré. 2 semaines que tu restes ici, 2 semaines que nous sommes offensés.
Offensés ?
Par ton comportement, Saïda, offensés, oui.
Rentre à la maison, Selim. Dis-leur que je suis morte, que je suis devenue folle. Dis-leur quelque chose qui leur fasse préférer que je sois ici plutôt que là-bas. Rentre à la maison, Selim.
Je suis venu pour te ramener, je te ramènerai. Prends tes affaires, dépêche-toi.
Je n'ai pas d'affaires.
Alors viens.
Tu ne m'as pas dit comment tu me trouvais, Selim.
Comment ?
Tu ne m'as rien demandé.
Tu as encore mal ?
Chaque fois que je me regarde dans la glace, oui. Chaque fois que je parcours mes jambes du bout des doigts, oui.
Cela passera ?
Non.
Tu t'habitueras ?
Non.
Ne t'inquiète pas, Saïda. Nous serons autour de toi. Nous nous occuperons de tout. Tu n'auras plus à sortir.
Je ne sortirai plus.
Tu n'en auras plus besoin.
Et si je le désire ?
Nous trouverons des moyens, de longues robes, le voile. On ne verra rien.
Non, Selim. Si je désire sortir comme ça, tel que tu me vois.
Nous avons assez parlé, Saïda. Je te ramène.
Non, Selim.
C'est cela, Saïda. Cette façon de dire non, cet air comme ça. Tu n'as rien appris.
Qu'est-ce que j'aurais dû apprendre ?
À te taire.
À baisser les yeux ?
Parfois, oui.
À me cacher sous les voiles ?
Oui.
Et quoi encore, Selim ?
Tais-toi, Saïda.
Désapprendre à lire et à compter ? Oublier ce que je sais ? Écarter les cuisses pour mon mari et être une ombre à ses côtés ?
C'est répugnant. La façon dont tu parles, ce que tu dis, c'est...
C'est quoi ?
C'est indécent.
Tu trouves que je suis indécente ? Tu penses comme eux, que j'ai un air, comme ça. Tu penses, toi aussi, que je montre mes jambes, que je souris dans la rue comme une dépravée ?
Je pense, oui, que cela devait arriver. Je t'avais mise en garde.
Tu les connais ?
Qui ?
Ceux qui m'ont fait ça.
Tout le monde les connaît.
Tu les as croisés depuis ? Réponds.
Oui.
Rachid et Ahmed, au moins, bien sûr. Tu les as croisés dans le quartier. Tu es allé boire un café avec eux, peut-être.
Cela n'a rien à voir.
Tu penses comme eux.
Que tu étais indécente, oui. Et j'avais honte, je te l'ai dit. Les gens parlaient dans le quartier. Mais tu n'écoutais rien, toi. La honte jaillissait sur nous et cela te faisait rire.
La honte ?
Oui, d'avoir une sœur comme ça.
Tu l'as fait, toi aussi ? Sur d'autres filles, tu l'as fait ?
Non.
Le vitriol, non, peut-être pas. Mais le regard froid quand tu les croises, l'insulte au bout des lèvres. Prendre une fille à partie dans le bus parce qu'elle a de beaux cheveux.
Oui, je l'ai fait.
Pas tout seul, mais à 3 ou 4, oui.
C'est un sens des valeurs que tu n'as pas.
Je ne rentrerai pas, Selim.
Tu n'as rien à faire ici.
Tu es mon ennemi.
Je suis ton frère.
Mon ennemi.
Tu me dois obéissance.
Je te l'ai déjà dit, ne me parle jamais comme ça.
Tu n'as rien appris.
Tu es mon ennemi. Par ses regards jetés à d'autres filles comme moi, par ses insultes dont tu les as couvertes, par le café que tu as bu avec ceux qui m'ont défiguré.
Saïda...
Ne m'appelle pas comme ça. Appelle-moi comme tes amis m'appellent.
Tu es folle.
Indécente. C'est mon nom pour toi.
Tais-toi.
C'est mon nom.
Saïda...
Elle se jette sur lui avec un couteau et le poignarde. Il tombe à terre, mort. Elle le contemple, à ses pieds. Sans victoire. Traversons la Méditerranée et remontons encore dans le temps. Nous voici dans le nord-est de la France en 1914 sur un champ de bataille de la Grande Guerre.
Je crois que pour ceux qui ont traversé ces épreuves...
Maurice Genevoix.
Je me rappelle tel ancien combattant disant « Celui qui n'a pas compris avec sa chair, celui-là ne peut en parler. C'est intransmissible. »
Votre magnifique premier roman, « Cri », paru en 2001, donne à entendre l'horreur qui saisit les soldats dans les tranchées. C'est un récit polyphonique où se mêlent les voix, celles de Jules, Castellac, Barbeny, Mbosolo, le tirailleur noir, ou encore celles du lieutenant Régnier, fauché dès le premier assaut, ou du médecin, impuissant face au nombre de blessés. Écoutons Boris et Marius, deux fantassins postés en première ligne qui attendent la relève. Vous serez Marius, Laurent Godet, et j'interpréterai à la fois Boris et le médecin. Écoute Marius et ne crois pas que je délire. Ce n'est pas parce que les obus sont tombés ici que je reviens en courant. Ce n'est pas pour retrouver mon poste que je me suis pressé tout le long du chemin qui mène jusqu'ici. C'est pour te dire tout autre chose. Écoute, Marius, j'en suis certain maintenant. Je l'ai entendu. Les mêmes cris, tantôt aigus, tantôt rocailleux. Les mêmes appels animaux, là-bas, en plein milieu de cette terre vierge et dangereuse, ce territoire ténu entre nos tranchées et les leurs. Il est là, à nouveau. Je l'ai entendu reprendre son chant bestial. Il erre à nouveau, longeant dans la nuit nos lignes ou les leurs, frôlant les barbelés, rampant dans la boue. Il a survécu à la grande attaque. Je sais que c'est incroyable. Je sais que toute la journée, il a plu des obus et que les balles sifflaient si denses que nous avons tous pensé mourir. Mais il a survécu. Et ce soir, il a repris. Il a survécu à la grande attaque. Et je me demande, moi, où est-ce qu'il a pu se terrer pendant que nous nous ruions les uns contre les autres? À moins qu'il n'ait participé à la tourmente. À moins que lui aussi se soit mêlé à la charge des soldats. Et je me demande bien alors sur quel camp il a tiré. Et pourquoi il n'est pas rentré avec ceux qu'il avait fait sien. Car ce soir, il est à nouveau seul au milieu du champ de bataille déserté. Il rampe, il marche et hurle. Et je ne saurais dire s'il hurle pour pleurer ses morts, ses milliers de morts qui jonchent son royaume, ou si c'est pour fêter son triomphe d'animal bouché et pour nous remercier de tout ce sang versé.
Boris venait d'arrêter de parler quand un cri strident a éclaté à quelques dizaines de mètres à peine en face de nous. Là, droit dans la direction des tranchées ennemies, nous nous sommes précipités, les yeux au ras du sol pour voir ce dont il s'agissait. Mais l'obscurité était trop épaisse. C'était là, à quelques mètres. Je pouvais même entendre le bruit d'un corps qui marchait. Là, à quelques mètres, un cri mi-animal, mi-articulé. Comme un démon qui fait des vocalises, je scrutais de toutes mes forces l'obscurité. Je sentais le souffle de Boris à mes côtés. Et c'est là que je l'ai vu. Dans l'obscurité, j'ai distingué pendant quelques secondes la silhouette voûtée d'un homme, comme s'il reniflait le sol. J'ai dit, pour que cet homme m'entende, « Français ou allemand ?» Et il a répondu, d'énormes gargarismes obscènes, comme une succession inarticulée de paix et de gargouillis, puis plus rien, ni cri, ni mouvement. Il était parti. J'ai laissé Boris tout seul, et je suis retourné à l'arrière, jusqu'au poste A. Je voulais voir le médecin. C'est un type que j'aime bien. Je savais qu'il était celui d'entre nous qui était là depuis le plus longtemps, qu'il avait connu le régiment que nous avions remplacé. Je suis venu voir le médecin pour l'interroger sur les cris de la bête courbée qui rôde le long des tranchées, les cris de la bête que nous croyons morte, mais qui a survécu à la grande attaque. Et je voulais savoir à combien d'autres attaques elle avait survécu ainsi. Je voulais savoir quel était son nom.
Les cris que poussent les hommes qui se débattent sur mes tables, je ne sais pas les nommer. Ces choses-là n'ont pas de nom. Je ne sais pas ce qui peut produire les cris dont tu parles et que j'ai moi-même entendu, animal ou homme. Je ne sais pas si ce sont des lamentations ou les fous rires d'une bête sauvage. On dit que c'est un soldat, aliéné lors d'une attaque, qui n'a jamais retrouvé ses lignes et qui erre en nous insultant, nous qui n'avons jamais rien fait pour essayer de le retrouver. Personne ne peut dire si c'est un Allemand ou un Français. Personne ne peut dire de quoi il vit et où il se terre. Certains affirment que c'est le fantôme écorché du champ de bataille, qu'il vient hurler à nos oreilles la nuit pour nous rappeler nos meurtres du jour. Je ne sais pas, Marius. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il ne reviendra pas, ni ici, ni en face. Tant qu'il aura un peu de force, tant que ses poumons pourront se remplir d'air, de l'air vicié des charniers, il gueulera sur nos têtes à pleines dents.
J'ai su ce que c'était que les cris des blessés, je vous assure, c'est abominable. Je me rappelle que à la lisière du bois de Saint-Rémy, c'est là vraiment que je les ai entendus le mieux pour la première fois. Il y avait des Allemands, il y avait des Français. Et le ton dont les blessés allemands criaient vers nous « Hilfe, à l'aide » ou « camarade Franzose », eh bien, la langue n'était pas la même. Mais le ton, l'accent, étaient les mêmes, exactement. Plus tard, aux Éparges, alors il s'agissait de blessés de ma propre compagnie, des hommes avec qui j'avais vécu depuis 10 mois. Eh bien, c'était encore plus poignant et plus dur pour moi, car cette fois, c'était moi qu'ils appelaient, je le savais, ils m'appelaient par mon nom. Mon lieutenant, lieutenant Genevois, eh bien, je ne vous dirai pas tout ce que j'ai entendu cette nuit-là. Mais je me rappelle l'un d'eux, qui était pris tout à coup par une sorte de délire, qui courait le long des parois de l'entonnoir, qui criait « Donnez-moi un flingue, bande de vaches, si vous n'avez pas le courage, moi je l'aurai !» Et qui, à la fin, venait s'affaler dans mes bras, et je sentais, dans les ténèbres, sous la pluie, son sang de martyr qui gouttelait sur mes mains.
Du haut de leur château, de boîtes de conserve, ils mènent en bateau les hommes qui les servent. La mort descend d'un ciel qui mitraille et se venge. Un ciel présidentiel déserté par les anges. Quand apprendre à compter ne sert aux survivants, savoir combien on est et l'âge des suivants. Cette vie dont on croit ne pas devoir douter, c'est un chemin de croix, un passage clouté, un chemin de croix, un passage clouté. Du haut de leur château, de boîtes de conserve, ils gardent leur chapeau, la mort ne les conserve que quand c'est l'un des leurs qui passe l'arme à gauche. Quand pour l'un de ces leurs d'achever la débauche. Et la vie dont on croit ne pas devoir douter, c'est un chemin de croix, un passage clouté, un chemin de croix, un passage clouté. Cette vie dont on croit ne pas devoir douter, c'est un chemin de croix, un passage clouté, un chemin de croix, un passage clouté.
Quittons ces années sombres pour le soleil de l'Italie. Poursuivons notre voyage dans le temps. Nous sommes en 1875, dans la région des Pouilles. Voici un extrait d'une passionnante saga familiale, « Le soleil des Scorta », paru en 2004 et salué par le prix Goncourt. Votre récit évoque sur plusieurs générations le destin d'une famille marquée par l'échec de ses aïeux, qui ont tenté à la fin du 19e siècle d'émigrer à New York et ont été refoulés aux portes d'Ellis Island. Mais revenons au début du roman. Tout commence par le retour, un jour de canicule, d'un homme maudit par les siens. À vous, Laurent Godet.
La chaleur du soleil semblait fendre la terre. Pas un souffle de vent ne faisait frémir les oliviers. Tout était immobile. Le parfum des collines s'était évanoui. La pierre gémissait de chaleur. Le mois d'août pesait sur le massif du Gargano avec l'assurance d'un seigneur. Il était impossible de croire qu'en ces terres, un jour, il avait pu pleuvoir. que de l'eau ait irrigué les champs et abreuvé les oliviers. Impossible de croire qu'une vie animale ou végétale ait pu trouver, sous ce ciel sec, de quoi se nourrir. Il était 2 heures de l'après-midi et la terre était condamnée à brûler. Sur un chemin de poussière, un âne avançait lentement. Il suivait chaque courbe de la route avec résignation. Rien ne venait à bout de son obstination. Ni l'air brûlant qu'il respirait, ni les rocailles pointues sur lesquelles ses sabots s'abîmaient. Il avançait, et son cavalier semblait une ombre condamnée à un châtiment antique. L'homme ne bougeait pas, hébété de chaleur, laissant à sa monture le soin de les porter tous deux au bout de cette route. La bête s'acquittait de sa tâche avec une volonté sourde qui défiait le jour. Lentement, mètre après mètre, sans avoir la force de presser jamais le pas, l'âne engloutissait les kilomètres. Et le cavalier murmurait entre ses dents des mots qui s'évaporaient dans la chaleur. « Rien ne viendra à bout de moi. Le soleil peut bien tuer tous les lézards de la colline, je tiendrai. Il y a trop longtemps que j'attends. La terre peut siffler et mes cheveux s'enflammer, je suis en route et j'irai jusqu'au bout. »
En conclusion, revenons à votre toute première pièce de théâtre qui relie l'ancien et le nouveau continent, l'antiquité et la modernité. Quittons l'Italie de la fin du XIXe siècle pour New York un siècle plus tard. Dans Onissos le Furieux, publié en 2000, vous faites apparaître Dionysos, le dieu grec, sur un quai de métro de nos jours. Voici la fin de ce très beau monologue présenté pour la première fois dans une mise en scène de Yannis Kokos au Théâtre National de Strasbourg, alors sous la direction de Jean-Louis Martinelli. À l'aube, Dionysos, le dieu de l'ivresse, se revendique comme le dieu des marginaux.
Regarde New York, regarde tous ces visages. Les émigrés ont faim, grelottent de froid et de frustration. Je vais me fondre dans cette ville que j'aime, parce que New York a été construite pour moi. Je vais me mêler à tous ces nègres et ces négresses, tous ces parias que la ville essaie de cacher sans y parvenir, parce que j'ai en haine ces petits blancs qui se blottissent bourgeoisement les uns contre les autres dans des quartiers où les avenues sont propres et ombragées. J'ai moi aussi la peau d'ébène. J'ai vu dans les quartiers noirs la beauté svelte des femmes et j'ai su immédiatement que c'était là mes femmes. Si tu en croises une un jour, camarade, si elle t'invite à la suivre et à lui faire l'amour, accepte sa fièvre et honore-la. Tu murmureras mon nom dans ses cheveux. Vos corps se consumeront et elle t'apprendra ce qu'est le suc musqué de la vie.
Je pourrais te dire que je n'ai jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, que mes compagnons n'ont jamais été aussi nombreux. Il suffirait que je le veuille pour que nos danses barbares reprennent, pour que les ghettos s'enflamment comme s'enflammèrent autrefois les rues de Babylone. Je pourrais te dire que je suis aujourd'hui le plus puissant des dieux, et cela est vrai, car mes hommes se comptent par millions. Je pourrais te dire que je suis Onissos et que j'ai le pouvoir de magnétiser toutes ces femmes à nouveau pour que la nuit ne soit plus ce qu'elle est. Un œil mort, la bouche éteinte d'un moribond, pour que la nuit grouille et crépite. Qu'on ne passe plus dans les rues sans entendre de chaque fenêtre, de chaque chambre, des cris secoués de jouissance. Je pourrais, mais le monde m'a oublié. Qu'il ne pense pas m'avoir battu, car aucune bataille n'a été livrée.
Le monde m'a oublié, peu m'importe. Je choisirai le jour où me rappeler à sa mémoire. Ce sera mon triomphe et les tours colosses de New York se cabreront sous la puissance de mon rire. En attendant ce jour, de ces hommes et de ces femmes qui n'ont rien et ne sont rien, je suis le témoin. Onisos est celui qui les aime.
Je n'ai ni or ni repos à leur offrir. Juste le partage du regard émigré. J'embrasse cette foule de parias et je connaîtrai bientôt le visage de chacun d'entre eux. Et lorsqu'un des miens crèvera, comme ils crèvent tous depuis des milliers d'années, sans personne pour leur fermer la bouche, avec comme dernière odeur sur les vêtements et sur la peau la puanteur tenace de la rue, je me pencherai sur lui avant qu'il ne meure, je prononcerai son nom à voix basse et lui dirai qu'Onissos est là. Qui le connaît et le voit disparaître.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Julien Demain à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Lorraine Macky. Un grand merci, Laurent Godet. Est-ce que vous voulez la dédicacer à quelqu'un, cette émission ?
Alors, j'aimerais bien dédier cette émission à la mémoire d'Hubert Gignoux, qui a été mon patron, grande figure de la décentralisation théâtrale en France, et qui a été le tout premier homme à dire à voix haute devant un public mes mots.
Eh bien, c'est chose faite. Bonne soirée et à la semaine prochaine.